Radio Spirale. Voici l'entretien avec Catherine Cusset, menée par Claire Legendre à la librairie Gallimard de Montréal. L'auteur lit dans un premier temps un extrait de sa plus récente création encore non publiée à ce jour. Puis, l'animatrice discute avec Catherine Cusset du roman « Une éducation catholique » et de ses autres œuvres. Une occasion d'explorer avec elle une écriture logée entre le romanesque et l'inspiration autobiographique.
Donc j'ai invité Catherine Cusset, je suis très heureuse qu'elle ait pu venir jusqu'à nous, ce qui n'était pas à gagner hier. En fait, ça fait longtemps que je voulais inviter Catherine à Montréal parce que simplement j'aime énormément son travail. Depuis 1999, où il faut bien rencontrer quelqu'un à un moment donné. Moi, c'était en 1999 que j'étais lue pour la première fois avec Le problème avec Jane. C'est un livre qu'on offre, que j'ai offert à un nombre d'amis incalculables. Et puis, j'ai appris ensuite à te connaître un peu mieux à travers tes autres livres, comme on demande à quelqu'un qu'on rencontre et qu'on aimerait mieux connaître de nous raconter son passé. Et c'est un peu comme ça, moi, que j'ai eu l'impression de te lire. On s'est croisés à Prague en 2011, étrangement, alors que tu n'y vivais plus, et moi, oui. Et puis, on s'est recroisés à Nice en 2013. Pour moi, c'est une écriture, l'écriture de Catherine Cusset, qui m'intéresse parce qu'elle parvient à relever le défi du romanesque, alors même qu'elle est ancrée dans l'intime. Et donc, elle désarçonne les clichés, elle traverse les frontières entre ce qu'on nomme souvent abusivement l'autofiction et puis un romanesque, j'ai envie de dire presque populaire ou échevelé parfois. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, c'est aussi une façon de traverser les frontières. Ton écriture parle souvent de la rencontre culturelle avec l'autre. Donc, on parlera d'une éducation catholique tout à l'heure. Mais comme hier soir, l'avion de Catherine est arrivé de New York très tard et qu'elle n'a pas pu parler dans le colloque où je l'avais invitée, elle a accepté aujourd'hui de lire le texte qu'elle devait nous lire hier. Donc c'est quand même une exclusivité que vous ne deviez pas avoir. Mais voilà, donc un moment un peu étrange. Et après ce texte-là, on vous demandera si vous avez des questions. Et puis avant de parler d'une éducation catholique et puis des autres livres de Catherine un peu plus longuement après, je te cède la parole.
Donc c'est le début, en fait ce que je vais vous lire, c'est le début d'un texte. Je vais pas le lire en entier parce que ça prendrait un petit peu trop longtemps, enfin c'est pas très gros, mais c'est le début d'un texte sur lequel je travaille depuis quelques mois. Et je suis pas du tout sûre, je sais pas encore s'il sera possible ou pas de publier ce livre. D'abord je sais pas ce qu'il vaut, donc déjà s'il est pas bon, moi il m'arrive d'écrire des choses mauvaises que je jette à la poubelle. Mais aussi il pose un autre problème que vous comprendrez en écoutant ce que je vais vous lire maintenant. Et donc le titre, alors c'est la première fois que je lis ça, vraiment ça m'est jamais arrivé de lire quelque chose qui est si récent comme ça. N'écris pas sur Jérôme. Et c'est juste le début, hein, c'est le début, là, comme une sorte d'introduction à ce livre que je ne peux pas appeler vraiment un roman et qui est si un jour il existe, serait un livre de, je ne sais pas, 250 pages. Il était 9h du matin. J'étais en train de corriger les épreuves de mon livre qui devait paraître en septembre. Je n'avais que 3 jours pour relire les 370 pages. Je commençais tôt pour profiter d'une heure de tranquillité avant l'arrivée des ouvriers. Quand le téléphone a sonné, ils étaient là depuis déjà une demi-heure. Ils rabotaient une des portes qu'ils devaient installer ce jour-là. Ils travaillaient, je travaillais, chacun de notre côté, concentrés, en face les uns des autres, eux au milieu du salon et moi à la table de la salle à manger, moi silencieuse, eux échangeant parfois quelques mots de polonais, eux penchés sur les portes et moi sur mes feuilles. C'était les vacances de Pâques et ma fille jouait dans sa chambre, qui n'avait pas encore de porte, mais se trouvait à l'autre bout du loft. J'ai décroché et reconnu mon frère. Il était rare qu'il m'appelle. « Nicolas !» Je ne te dérange pas. À sa voix, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Une voix rapide et sèche. J'ai d'abord cru qu'il allait m'annoncer sa séparation. Il avait, depuis un an, de gros problèmes conjugaux. J'ai pensé que sa femme l'avait mise à la porte et que cette fois, c'était fini. Une catastrophe pour un jeune couple avec deux enfants de 3 ans et 8 mois. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai compris que c'était infiniment plus grave, pas à cause des mots, mais de sa voix, froide, sans tonalité, comme s'il redoutait lui-même ce qu'il allait dire. J'ai eu une peur horrible. J'ai pensé au bébé, j'ai cru qu'il était mort. Je me suis levée et me suis éloignée vers ma chambre qui n'avait pas encore de porte non plus, mais me séparait quand même des ouvriers en train de raboter et de ma fille à l'autre bout du loft. Nicolas a dit « Jérôme s'est tué ». Je n'oublierai jamais cette phrase et le ton sur lequel Nicolas l'a prononcée, sec, définitif. C'était une phrase qui n'avait pas de sens. Elle se disait et s'effaçait en même temps. Jérôme, plus de Jérôme. Jérôme d'abord, Jérôme le sujet, Jérôme un tel sujet de conversation, Jérôme qui prenait tant de place, Jérôme notre ami commun à Nicolas et à moi, notre trait d'union en quelque sorte, Jérôme qui avait été notre trait de désunion. Puis ce verbe s'est tué, gouffre qui aspirait Jérôme et le faisait disparaître à jamais. Jérôme barrant Jérôme, l'annihilant, il n'était plus, il n'existait pas davantage que s'il n'avait jamais existé. Le caractère irrémédiable de cet acte s'est tué, m'est apparu dans une évidence qui a pénétré tous les pores de ma peau. Plus jamais, il ne franchirait le seuil du loft, les épaules courbées sous le poids du sac à dos rempli de livres, de disques, de manuscrits et de l'ordinateur. Plus jamais, je n'entendrai son rire. Plus jamais il ne me répondrait quand je m'étonnerais du poids du sac déposé dans l'entrée. « Tu sais, je suis fort !» J'ai senti sa disparition définitive. Je l'ai senti dans mon corps plus que je ne l'ai comprise. Jérôme, si proche de moi, et puis rien. Pendant que je m'occupais de mes boutons de porte, de mes poignets, de mes gonds, des finitions de la construction du loft, de ces travaux si prenants que j'en avais négligé d'appeler Jérôme et de m'étonner de son absence de réponse aux deux emails que je lui avais récemment envoyés, il se tuait. J'ai senti en même temps sa souffrance intolérable qui faisait de sa mort un acte délibéré. Un geste radical, définitif, commis par lui qu'on n'aurait jamais cru capable d'un tel geste, fin de la comédie. Cet après-midi-là, à la piscine où j'emmène ma fille, je pleure. Je pleure dans la piscine et je pleure sous la douche. « Pourquoi tu pleures ?» me demande-t-elle. Elle sait que Jérôme est mort. Le grand Jérôme, c'est ainsi qu'on le nomme. J'ai dû le lui dire tout à l'heure puisque je n'arrêtais pas de pleurer. J'ai parlé d'un accident. « Parce qu'on ne verra plus Jérôme. » Elle lève la tête, étonnée, et demande d'une petite voix incrédule « Plus jamais ?» Quand ta sœur m'a demandé si je voulais parler à l'église, j'ai répondu non. Je ne pouvais pas m'adresser à un cercueil et dire « tu ». Dire « tu » à qui ?« Tu » n'existe plus, « tu » as rien, au vide, « tu » n'est plus là. Maintenant, je ne peux plus dire autre chose que « tu ». Le « il » est trop distant, « il », comme si je parlais de toi à quelqu'un d'autre, « il » casse le lien entre toi et moi, « il » te tue encore un peu plus. Il n'y a aucun rapport entre toi et cet autre que nous avons vu dans le cercueil ouvert au funeral home de Richmond, celui que tu aurais été dans 20 ans peut-être, les cheveux lisses et peignés vers l'arrière comme tu ne les avais jamais coiffés, et le bas du visage épaissi, enflé. L'employé des pompes funèbres nous a expliqué pourquoi. Ce furent même ses premiers mots devant le cercueil ouvert alors que nous venions d'entrer dans la pièce et, le souffle coupé, de poser le premier regard sur toi, ton cadavre, dans le costume et la chemise jaune vif choisie par ta sœur. Tu étais peu reconnaissable, hormis l'arche des sourcils. Le système cardiovasculaire s'est effondré. Il a fallu tout reconstruire. C'est ce qui explique l'enflure au niveau du cou. Mais pour le reste, vous remarquerez que c'est parfait. On a assigné à la tâche un de nos 3 meilleurs gars. Il a fait du bon boulot. Il a joint les mains devant la poitrine, grave et obséquieux, l'air satisfait. Sébastien, ta sœur et moi avons échangé un regard. Pas même un sourire en coin. Nous étions trop sonnés. Un regard halluciné. One of our top 3 guys. Ce sont les mots qu'il a prononcés, ses paroles de condoléances au père et à la sœur. Ce sont les jambes qu'Anne et Nora ont vues en premier quand elles sont entrées avec la clé de Nora le mercredi soir. Tes jambes le long du futon, visibles depuis le couloir, depuis la porte d'entrée. Le soulagement du « il est là ». Une seconde d'infini soulagement. Anne a fait 3 pas et vu ton corps renversé en arrière, sur la tête, le sac en plastique. J'entends le cri d'Anne. « Jérôme !» Quand je ferme les yeux, ce sont tes jambes que je vois, tes grandes jambes d'homme très grand, fines au niveau des mollets, puissantes parce que si grandes et lourdes. Je te vois en caleçon et j'imagine tes jambes, tes cuisses avec les cicatrices sur le futon noir, ces jambes pliées sous toi ou croisées pendant que tu travaillais, puis raidies par la mort. Puis je vois, sans transition, le buste en chemise, les mains épaisses, reconstruites par one of the top 3 guys, pas tes belles mains fines aux longs doigts, croisées sur ta poitrine et le visage de poupée de cire engoncé dans le col de la chemise jaune vif à l'intérieur du cercueil. Toi aussi, mais un autre toi, sans rapport, ce que tu t'es fait à toi-même, ce que tu as fait de toi, ton cadavre. Deux morceaux qui ne s'emboîtent pas. Si tu étais resté en France en mars au lieu de retourner aux États-Unis, si tu avais été hospitalisé comme le voulait ta sœur avec son intuition de sœur, serais-tu vivant ? Je le crois, contrairement à Nicolas qui pense que cette mort était inscrite dans les lignes de ta destinée, qu'on ne pouvait pas t'en détourner, qu'elle serait arrivée ici ou ailleurs, que ta douleur était incommensurable avec toute tentative de te sauver. Tu as réussi à convaincre ton psychiatre qu'il te fallait repartir, que tu n'avais pas le choix, que c'était une question de vie ou de mort. Tu connaissais les États-Unis, leur éthique du travail, leur code professionnel et leur rigidité. Jusqu'au bout, tu as essayé de jouer le jeu. C'était bien une question de vie ou de mort. Le choix était fait, la mort. À Richmond, je suis allée voir dans son bureau celui qui t'avait écrit le 15 avril au matin, 6 jours avant ta mort, le message que je tiens pour fatidique. Tout en le regardant dans les yeux, j'ai dit à cet homme, ton supérieur hiérarchique, « Quand quelqu'un vous écrit qu'il est très malade, monsieur, on fait attention à ses mots. Au besoin, on lui demande des preuves. Jérôme vous les aurait fournies. Il avait consulté un psychiatre à Richmond. » L'homme était blême. Son regard me fuyait. Depuis qu'il avait appris la nouvelle, il devait penser jour et nuit à l'email qu'il t'avait envoyé. Il était sûrement terrifié à l'idée que la famille ne prenne un avocat, ne le poursuive, ne lui demande une compensation élevée, le coût d'une vie fauchée à 39 ans. Risquait-il de perdre son poste ? Chercher un avocat nous est peut-être venu à l'idée, mais nous avons renoncé tout de suite. Trop compliqué. Il y avait tous ces autres problèmes qu'il fallait régler. Vider l'appartement, rapatrier le corps, organiser les funérailles, prévenir les amis, etc. J'espérais que cet homme avait une conscience et que mes mots l'empêcheraient de dormir. Qui étais-je pour l'accuser ? Je me poserai la question 4 mois et demi plus tard, quand ma belle-mère se tuerait, et que je me rappellerai trop tard les paroles du meilleur ami de mon mari, « Fais attention à la vieille dame. Tant que la mort n'est pas là, elle est si peu réelle. Attention, ce mot de précaution que tu ne cessais de m'adresser, tu avais peur de moi, de mon indélicatesse, peur du mal qu'on peut faire sans même s'en rendre compte. » Je ne sais pas si je lis en entier. Ouais, tant pis, je lis en entier. Tant pis, c'est long. Bon. Tout de suite, j'ai su que je chérirais ces moments où je suffoquais de chagrin en pensant à toi. Tu apparaissais. Je te voyais debout dans mon entrée avec ton gros sac sur le dos comme si j'avais pu te toucher. Je savais que viendrait le moment où je ne te verrais plus, où je n'y arriverais plus même en me concentrant, où il n'y aurait plus cet espace toujours ouvert en moi pour ta présence. 4 mois et demi plus tard, c'est déjà le cas. La rentrée, le changement de vie, l'installation à Paris, où ma fille et moi venons d'emménager pour 1 an sans mon mari rester à New York à cause de son travail. Les débuts de ma fille dans l'école française, les devoirs, les fournitures scolaires, les poèmes à apprendre par cœur, les nombres par milliers et millions, la sortie de mon livre, les émissions enregistrées, les passages chez mon éditeur, je ne cesse de courir. Je ne te vois pas. Demain, je ne penserai plus à toi pour une autre raison. Ton cadavre sera recouvert par celui de ma belle-mère, comme dans un de ces panneaux, au passage d'une voie ferrée, où l'on vous annonce qu'un train peut en cacher un autre. Ce week-end de début septembre, je suis en Provence pour un salon du livre. Enfin, je me pose. Assise derrière une table sur laquelle sont exposés mes livres, j'attends le chaland. Il ne se presse pas. Il prend mon livre, lit la 4e de couverture, le repose sans me jeter un regard. C'est humiliant, déprimant. À 7h, on nous raccompagne en car à l'hôtel, un bel hôtel 4 étoiles dans la campagne avec un golf et une piscine. Vêtu du peignoir blanc de l'hôtel, je marche à la piscine. Il n'y a personne dehors, il fait bon, je suis en province. J'ai quitté un automne gris et pluvieux à Paris et je traverse une pelouse vers une piscine où je serai seule à nager. C'est plutôt agréable. Soudain, tu m'apparais. Tel qu'en ce jour de Thanksgiving, en novembre dernier, dans le parc de Fort Tyrone. Ton ami, toi et moi, étions allés dans ce parc, que tu souhaitais nous faire découvrir tout en haut de Manhattan, bien au-delà de Harlem. Il avait une vue magnifique sur l'Hudson et les falaises du New Jersey. J'étais contente d'avoir annulé mes plans pour passer la journée avec vous. Il faisait gris. Tu cherchais le musée des Cloisters. Ton idée était de t'y arrêter pour déjeuner. Tu te rappelais l'existence d'un café dans un cloître moyenâgeux avec une vue splendide. Nous avons trouvé le musée, mais il était fermé, ses alentours déserts. C'était le jour de Thanksgiving, plus férié que le jour de Noël. Tout en marchant, ton ami et moi avons commencé à parler. Aux 2 dîners des soirs précédents, chez nous et chez notre ami James, tu remplissais l'espace de ta voix forte et de tes éclats de rire. Je n'avais pas échangé 2 mots avec elle. Je ne la connaissais pas. Je me doutais qu'être en couple avec toi ne devait pas être facile, surtout avec un océan entre vous. Dans l'appartement de tes amis où je vous avais rejoint 1 heure plus tôt, tu t'étais livré devant elle à quelques commentaires indiscrets à propos de ton ami qui vous avait prêté l'appartement. Ça ne doit pas baiser beaucoup. Pourquoi ? La tête de lit n'est pas fixée et cogne le mur dès qu'on bouge un peu. Infernal ! Visiblement, ça ne les dérange pas, Sam et sa femme. Ton ami avait ri. et ne semblais pas trop gênée par cette évocation implicite de vos ébats. Tu m'avais dit, dès mon arrivée, alors qu'elle était encore sous la douche, être profondément soulagée. Contrairement à septembre, le dernier moment où vous vous étiez vus, ta libido était au rendez-vous. Tu avais eu très peur que ça ne marche pas, très peur de la décevoir. Les médicaments que tu prenais avaient sur ton corps un effet inhibant. J'ignorais alors que tu avais arrêté ton traitement avant de la retrouver avec l'accord de ton psychiatre parisien. Elle et moi, nous sommes tout de suite rejointes sur de nombreux terrains. Écriture, couple, enfant, les mots défilaient, nous découvrions une sensibilité et plein d'intérêts communs. J'étais contente de trouver ton amie si sympathique. Si cette histoire durait, ce à quoi je ne croyais guère, j'aurais plaisir à vous voir ensemble, à vous inviter en Bretagne. Elle était amoureuse, mais confirmait que la relation avec toi n'était pas facile, que tu n'allais pas bien, et qu'elle-même, après une histoire tourmentée et une séparation douloureuse, avait besoin de se protéger. Tu marchais une cinquantaine de mètres devant nous dans le parc désert. Sous les arbres dont le vent faisait tomber les feuilles, il s'était mis à pleuvioter, et nous nous hâtions vers la sortie du parc en suivant une route goudronnée, afin de trouver un lieu qui soulagerait nos estomacs affamés. Un bus bleu et blanc de la ville, vide et surgi de nulle part, s'est soudain arrêté près de moi. Le chauffeur noir s'est penché à la vitre. « Vous allez où ?»« Vers la sortie du parc, c'est encore loin ?»« Oh oui, montez donc !» On a hésité. Il y avait la pluie et la faim d'un côté, mais par ailleurs cette promenade et notre conversation ne manquaient pas d'agrément. Nous t'avons montré du doigt. Nous sommes avec lui. Nous t'avons appelé pour savoir ce que tu voulais faire. Tu ne t'es pas retourné. Avec la distance, tu ne nous entendais pas. Le chauffeur du bus a roulé jusqu'à toi et ralenti à ton niveau. Il t'a appelé par sa vitre ouverte. Tu n'as même pas tourné la tête. Tu marchais droit le long des arbres, d'un pas égal, absent au monde, les écouteurs dans les oreilles, un cigarillo dans la main, perdu dans la musique, sans même voir cet énorme bus qui roulait à côté de toi, sans avoir conscience du chauffeur qui t'interpellait. La scène a duré plusieurs minutes. Tu avançais et le bus t'accompagnait sans que tu le remarques. Ton ami et moi avons éclaté de rire, tant la disproportion entre l'énorme bus et ton corps solitaire était comique. Le chauffeur a fini par klaxonner pour te sortir de ta rêverie. Tu as levé le nez. C'est cette image qui m'est revenue. Ton grand corps, en manteau trois quarts, bleu marine, marchant à 50 mètres devant nous, sous les arbres de Fort Tyrone, seul et mélancolique, sourd aux appels et aux coups de klaxon du bus roulant près de toi, absorbé ailleurs. Nous n'avons pas accepté l'offre du chauffeur, car tu préférais marcher, mais nous avons beaucoup ri tous les trois en sortant du parc et en nous dirigeant vers le métro. Qui était ce chauffeur qui voulait absolument qu'on monte dans son bus vide au milieu du parc désert? Un psychopathe? Nous aurait-il assassinés avant de se débarrasser de nos corps dans les sous-bois? N'écris pas sur Jérôme. Ce sont les paroles de ta sœur, un soir d'octobre 2008 au fer à cheval, 6 mois après ta mort. Ces paroles m'ont fait mal. Elles semblaient désigner à la fois mon incapacité à écrire adéquatement sur toi et la vilenie de l'écriture qui s'empare des morts et les vampirise. J'ai rougi comme si elle m'avait giflé. J'ai demandé pourquoi. Elle ne voulait pas qu'il y ait une trace écrite de l'état dans lequel tu avais été dans les mois précédant ta mort, hébété par la maladie. Ce n'était pas toi. Elle voulait en effacer le souvenir. « Et je ne veux jamais lire quelque chose comme ça sur Jérôme », a-t-elle dit avec une pointe de mépris dans la voix. Ça, c'était mon roman sorti à l'automne, que je lui avais donné au début de l'été, 2 mois après ta mort, en oubliant qu'il commençait par un suicide, et que tu avais emprunté à mon beau-père, et donc au personnage de mon roman, le mode de son suicide, le sac en plastique sur la tête, provoquant la suffocation. En oubliant, oui, je suis capable de ce genre d'oubli. Tu le savais, tu me suppliais de me méfier de moi-même. Fais attention, tu craignais que je fasse du mal à ma fille, à mon mari. Tu m'agaçais. Qui étais-tu pour me lancer ces avertissements, toi qui n'avais jamais pu prolonger un amour au-delà de 3 ans, alors que j'étais mariée depuis 10, 12, 15 ans? Quel ami étais-tu pour te placer tout de suite du côté de la supposée victime et me transformer en bourreau? Quand ta sœur a lu le début de mon roman, à la 6e page, le cadavre de mon beau-père, avec le sac en plastique sur sa tête, lui a sauté à la figure, comme d'une boîte contenant un ressort, lui projetant en plein visage un autre cadavre, le tien, dont elle avait à peine pu soutenir la vision à la maison funéraire de Richmond, et qu'elle n'avait sûrement jamais imaginé avec le sac sur la tête. Elle a crié et mordu son oreiller de douleur. Et c'était moi qu'elle tenait pour une amie, pour une sœur presque, depuis la Virginie fin avril, qui lui causait cette douleur. Elle a même cru que j'avais écrit la scène de mon roman en m'inspirant de ta mort, que j'étais allée en Virginie pour prendre des notes, peut-être. Quelques mois plus tard, alors que nous dînions ensemble avec ses 2 enfants et ma fille, ta nièce m'a dit à brûle pour point, « Je ne veux pas que tu écrives sur Jérôme. » Pour qu'une petite fille de 9 ans qui me connaissait à peine me dise cela, d'une claire voix d'enfant, mais sur un ton d'adulte, il fallait que ta sœur ait exprimé ses craintes devant elle. J'ai rougi. Je ne lui ai pas dit. « Bien sûr que je n'écrirai pas sur Jérôme, ma chérie, puisque tu me le demandes. » Je ne pouvais pas faire à ta nièce de 9 ans une promesse que je n'étais pas sûre de tenir. Il était probable que j'écrirais sur toi un jour, ou plutôt que ce livre s'écrirait. Tu étais en moi, je l'avais déjà fait quelques années plus tôt de ton vivant. J'ai répondu mal à l'aise. Je n'écrirai pas sur ton oncle, mais peut-être qu'un jour, j'écrirai sur mon ami, sur notre amitié. Il y a eu un silence autour de la table, ce n'était pas la réponse attendue, j'avais déçu. Ta sœur avait peur de moi, je sentais sa peur au-delà de son sourire, qui faussait soudain ce qui aurait pu être le début d'une amitié. Cette double demande insistante contenait à la fois une peur et un jugement. Elle ne voulait pas que j'écrive sur toi et essayait de m'arracher la promesse que je ne le ferais pas au nom du respect que l'on doit aux morts. Elle dénonçait la vilenie de l'écriture qui s'empare des morts et les vampirise. C'était presque une question sacrée. Je me suis doutée que tu avais dû lui parler du texte que j'avais écrit sur toi et que tu avais détesté. Quelque temps après ta mort, j'avais voulu relire ces pages, un chapitre dans un livre que j'avais choisi de ne pas publier car je sentais qu'il était mauvais, comme tu me l'avais dit, après en avoir lu les extraits qui te concernaient. J'avais cherché en vain le fichier sur mon ordinateur. On peut effacer un fichier par une erreur de manipulation, mais quand j'écris un livre, je sauvegarde chaque nouvelle version. Ainsi, je n'avais pas seulement un fichier AMI, mais au moins 7 ou 8 intitulés AMI 0, AMI 1, AMI 2, AMI 3, etc. Ils avaient tous disparu. Ça ne pouvait pas s'être fait tout seul. Sur le moment, je n'y avais guère réfléchi. L'informatique a ses mystères que je n'essaie pas de creuser. Après les deux avertissements de ta sœur, j'ai eu une illumination. C'est toi qui avais dû éliminer de mon ordinateur le livre sur mes amis. Tu en avais eu l'occasion car quand tu m'avais rendu visite à Morgat ou à New York. Il t'arrivait de rester seule à la maison pendant que j'allais me promener ou faire des courses. Il n'était pas compliqué de t'asseoir à mon ordinateur et de procéder à cette simple opération, d'appuyer 7 ou 8 fois de suite sur la commande « effacer », de détruire en 1 minute ce qui représentait pour moi 2 ans de travail, bagatelle pour quelqu'un qui s'apprête à mourir. Je n'en ai pas la preuve, bien sûr, mais c'est le seul scénario plausible. Aucun autre texte n'a disparu de l'ordinateur. Tu avais un mobile. Éliminer l'image, dégradante selon toi, que contenait mon texte. Tu ne voulais pas que cette trace demeure. Avais-tu déjà décidé de mourir quand tu as dit à ta sœur le mal que tu pensais de mon texte? Lui as-tu dit, mot pour mot, « Je ne veux pas qu'elle écrive sur moi, jamais. » L'as-tu chargée de me transmettre un message posthume? Est-ce pour cela qu'elle insiste si lourdement et n'hésite pas à me donner un ordre 2 fois de suite, en personne et par l'intermédiaire de sa fille, « N'écris pas sur Jérôme. » Tu ignorais que le texte resterait dans la mémoire du disque dur. Un informaticien de chez Gallimard l'a ressuscité. Les huit versions sont à nouveau dans mon ordinateur. Peu importe. L'essentiel, c'est que tu ne voulais pas que paraisse ce texte, que tu le haïssais. Je t'entends. Je sais maintenant que tu avais raison, je n'avais rien compris. Ce texte est minable. Tu y apparais comme une caricature de toi-même, comme un clown pathétique. Puis-je mieux faire? Je l'ignore. Je sais seulement que mon sentiment pour toi a changé. Pas depuis ta mort, mais avant. Après ta lecture de mon texte. Après cette phrase que tu as prononcée d'un ton plus triste que dégoûté. Tu sais, les gens ont quand même une vie intérieure. Ton reproche a peu à peu fait son chemin en moi, puis il y a eu ta mort. Je te prends au sérieux. Mort, tu ne peux plus mériter. La tendresse, la vieille tendresse d'autrefois, avait commencé, avant ta mort, à remplacer l'agacement. J'ai eu le temps de penser, avant ta mort, que tu étais redevenu mon meilleur ami. J'ai eu le temps de sentir que tu me faisais à nouveau confiance. J'ai eu le temps de comprendre l'empathie que t'avait donnée ta vulnérabilité et de t'admirer. J'ai eu le temps de songer que notre amitié vieillirait comme le vin et que nous ririons de plus en plus, au fil des années. J'ai eu le temps de comprendre qu'il n'y avait aucun ami que j'aimais davantage, personne qui me fasse me sentir plus vivante que toi, et que cela était dû à quelque chose d'exceptionnel en toi qui t'illuminait, source de lumière et de vie, source de rire. Tu étais le rire. Ma plume ne pourra jamais reproduire ta brillance, tes feux d'artifice d'intelligence et de mots d'esprit. S'il faut nous comparer, j'ai compris à quel point je t'étais inférieure avec mon esprit scolaire et rationnel, mais au moins je fais. Tâcheronne et bûcheronne, la page blanche ne m'arrête pas, je n'ai pas peur de la médiocrité. La colère de Patrick, à New York. Tu dois arriver à t'abstraire pour lui rendre hommage. Je ne le connaissais pas vraiment, Jérôme, mais d'après tout ce que j'entends, il était votre accoucheur, celui qui vous a révélé à vous-même, qui vous a fait créer, qui vous a fait ce que vous êtes, Sébastien, Nicolas, toi et les autres. Et il est mort, il s'est tué, il était votre levain, il s'est sacrifié. Tu ne peux pas te mettre en avant, tu ne peux pas lui voler la place encore une fois. Écoute ce qu'il t'a dit quand il a lu ce texte que tu avais écrit sur lui, qu'il était question de toi surtout plus que de lui. Arrête d'écrire sur toi. Pour une fois, cesse d'être égocentrique. Écris sur lui, tu lui dois ça, redonne-lui vie. Comment redonne-t-on vie? Ta sœur pense que les mots n'auront pas ce pouvoir, que tu les débordes, les brises et les fais craquer comme une camisole limitant les moulinets de tes grands bras. Que ta seule vérité est dans le silence intérieur de ceux qui t'ont aimé. C'est la vie de Sam, de Tim, d'Olga, de Christophe, de Laurent, de nombreux autres de tes amis. Mon frère dit « On ne peut pas écrire sur Jérôme, il est « bigger than life ». Mon frère s'y est déjà essayé pourtant, il a écrit sur toi 10 pages que je trouve superbes, 10 pages, pas un roman, ton portrait, pas ta vie. J'ai plusieurs fois tenté d'écrire ce texte et me suis arrêtée avec un accablant sentiment d'échec, mais chaque fois le désir est revenu, je me suis remise. Comment parler de ta vie quand il m'en manque le grain? Comment rendre compte de toi quand je ne peux reproduire l'intensité de ta présence qui électrisait les lieux où tu entrais? T'inventer? Je suis trop rationnelle, trop plate pour inventer les fulgurances du génie. Raconter ta biographie par les faits, ce serait t'aplatir, te vider de ta substance. Tu ne peux être vivant que dans nos échanges, dans les moments où tu m'as atteinte, où tu as vibré en moi. Le risque, c'est que n'apparaisse de toi qu'une toute petite facette, par ma toute petite lorgnette. Comment ne pas transformer ce récit en un panégyrique qui t'étoufferait aussi bien? Vivant, nous ne nous sommes pas complus dans l'admiration de toi. Nous t'avons souvent trouvé insupportable. Tu nous as profondément agacé. Nous t'avons repoussé car sinon tu aurais envahi notre espace, incapable d'en respecter les frontières. Qui pourrait faire ton portrait? Personne n'a connu ensemble tes multiples facettes. Ni ta mère, morte trop tôt, ni ton père, tes yeux distants, ni ta sœur tant aimée et si proche qui avait ses enfants, son ex-mari et ses propres soucis, ni les nombreuses amantes que tu as attachées au montant de ton lit, ni les amis, les vieux, les excellents amis que tu retrouvais chaque été en France et avec qui tu as passé des centaines de nuits à rire et à goûter de bon vin, ni les professeurs, tour à tour émerveillés et décontenancés par ta brillance et tes débordements, ni les élèves que tu as convertis à la littérature, ni les 4 femmes que tu as aimées d'un amour absolu. De ton enfance, je ne sais rien. Tu avais 20 ans quand tu es entré dans ma vie, 39 quand tu es sorti de la vie. Nous avons eu des ruptures, des phases de plusieurs années pendant lesquelles nous ne nous sommes pas vus. Il y a beaucoup de choses que j'ignore. Il y a un de tes grands amours que je n'ai pas rencontré, des lieux où tu as vécu, où je ne suis jamais allée. Je n'ai pas partagé ta passion de la musique. Je n'ai pas assisté aux nuits de rire fou avec tes amis. Je t'ai connu seul à seul. De France en Amérique, nous nous sommes suivis. Qu'est-ce qu'un portrait? Les omissions, les ignorances de celui-ci le fausseront-elles? Où te verra-t-on te détacher de la page et te redresser? Entendra-t-on ton rire? Verra-t-on, comme je la vois, la courbe de ta vie, cette ligne en zigzag qui prend un grand tournant lorsque tu as 23 ans et qui, telle une voiture de sport, fonce sans se redresser vers un mur contre lequel elle va se fracasser? Ce mur, ce sont les États-Unis.
Merci. Je voudrais essayer de passer une éducation catholique. C'est ton dernier livre paru. Où donc on retrouve cette narratrice qui s'appelle Marie, qui est ton double fictionnel. Et puis bon, et ben, on l'a déjà vu dans plusieurs livres. Et donc on l'a. Enfin moi j'ai l'impression de la connaître. Et on retrouve une matière romanesque qu'on a déjà traversée, c'est ton enfance, ton adolescence, mais cette fois-ci vue à travers ce prisme, donc non pas de la religion, mais de l'éducation religieuse, de l'éducation.
Oui, de la religion, tout à même. De la religion, parce que elle a une foi très très fervente, Marie petite. Donc okay. Moi, je dirais de la religion. Oui,
pardon. Moi j'étais surprise parce qu'effectivement, ça tombe à un moment où on parle énormément de la religion partout. Et puis récemment encore, j'entendais à la radio, c'est très étonnant quand on met 10 adolescents en face de François Hollande, ils parlent de quoi? De religion, ce qui est quand même assez hallucinant. Enfin, je veux dire, il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé ça. Et là, d'un coup, donc, tu t'empares finalement de la dimension totalement intime. De ce que c'est que l'éducation religieuse, comment elle va façonner une personne aussi. Mm-hmm. Mais on retrouve des thèmes que j'avais l'impression de... Enfin, que je connaissais déjà chez toi, mais cette fois-ci, totalement... comment dire? La dimension, justement, morale et religieuse est totalement consciente et mise de l'avant dans ce livre-là. Donc, qu'est-ce qui a changé dans ta conscience, finalement? Comment est-ce que ça t'est apparu que c'était ça?
C'est un livre qui a, je dirais, deux origines. L'une, qui sont toutes les deux assez anciennes, enfin, qui remontent à... C'est-à-dire souvent un livre a plusieurs origines. Hein. On écrit un livre
en réponse à une question ou à cause. Enfin, il y a souvent plusieurs raisons circonstancielles. Là, en fait, j'ai commencé ce livre un jour où je me suis, je sais plus quand, je pensais à cette éducation catholique que j'avais eue enfant et que j'avais arrêté de croire à 13 ans. C'était pas une éducation, c'était une éducation. J'avais une mère juive et donc un père catholique, donc c'était pas non plus, la religion prenait pas toute la place à la maison, mais c'était important. J'allais à l'église, c'était très important pour moi, enfant. C'était tout ce que je partageais avec mon père, d'ailleurs, la prière du soir, etc. Et il y a eu, donc, ça a été très important pour moi jusqu'à mes 13 ans, je dirais même essentiel. Et puis, d'un jour à l'autre, comme c'est le cas pour beaucoup, beaucoup d'adolescents, voilà, ça s'est terminé. Et ça n'a laissé, apparemment, aucune trace. Je ne me suis jamais posé de questions là-dessus, ça m'a jamais... perturbé, enfin rien. Et donc je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il en reste finalement de cette éducation catholique ? Et j'ai commencé à écrire, pensant pas du tout que ça deviendrait un livre, hein, j'ai commencé à noter des souvenirs liés à cette éducation catholique, et donc petit à petit, ce livre s'est écrit. J'ai commencé vraiment, comme je le dis au début, quand j'étais petite, j'allais au catéchisme, enfin vraiment comme ça, et des souvenirs d'enfance, et petit à petit, le livre a pris une direction, parce que étrangement, il ne s'est pas arrêté au moment où je cesse de croire en Dieu qui a 13 ans, mais il s'est arrêté beaucoup plus loin. Et c'est là où j'ai compris que le livre n'était pas juste sur cette éducation catholique que j'avais reçue enfant, mais sur la trace de l'éducation catholique à l'adolescence et au début de l'âge adulte, c'est-à-dire vraiment à l'âge de la formation du moi, et que cette trace était en fait essentielle, que c'était vraiment l'éducation catholique qui avait informé, imprégné mon rapport à l'autre. Et qui m'avait quelque part fallu apprendre, enfin me débarrasser de quelque chose qui était lié à la religion catholique et qui était la culpabilité, pour réussir à aimer. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle d'où vient une éducation catholique. Et l'autre origine, et qui est aussi la raison pour laquelle j'ai publié ce livre, dont on pourrait dire que il fait d'une certaine manière un petit, par le matériau, un peu doublon avec d'autres de mes livres, parce qu'il couvre la période de l'adolescence, de l'enfance, de l'adolescence que j'ai beaucoup exploré dans d'autres livres. Donc on trouve comme ça des morceaux communs à d'autres livres. Et d'ailleurs, quand j'avais commencé à écrire ce livre, je m'étais dit, ça peut pas être un livre, parce que c'est trop commun avec d'autres livres. Je l'ai pas mal aussi laissé de côté pendant longtemps. Et j'ai mis du temps à comprendre que ce livre était en fait la réponse à une autre question que je m'étais posée et qui est liée à ce petit livre que j'ai publié en 97 et qui s'appelait « Jouir », qu'on considère comme mon livre érotique, que moi je ne considère pas du tout un livre érotique, mais bon, il parle de sexe, on ne peut pas dire le contraire. Et c'est un livre bref, alors que pour le coup, d'origine en origine, pourquoi est-ce que j'ai écrit « Jouir » ? J'ai écrit « Jouir » à nouveau pour deux raisons. On va remonter, je ne vais jamais avoir la réponse. On va remonter dans le temps comme ça, je ne vais jamais réussir à vous dire ce que je voulais vous dire là maintenant. J'ai écrit « Jouir » parce que j'avais lu des écrivains qui étaient Hervé Guibert et à l'époque Renaud Camus, qui était un écrivain qu'on pouvait encore lire. Et qui avait publié ce livre qui s'appelait Tricks, où il racontait ses rencontres homosexuelles dans des clubs de New York, San Francisco, Sydney, etc. Et de façon très très factuelle, en décrivant juste les actes, pas un mot sur un quelconque sentiment, et avec une écriture que Barthes, dans une introduction au livre, avait qualifiée d'écriture neutre. Et je m'étais dit, tiens, est-ce qu'une femme peut écrire comme ça ? Est-ce qu'une femme peut écrire totalement factuelle comme ça ? Alors, quelques années après Jouir, une femme a donné une réponse. C'est Catherine Millet. Mais elle existait, elle n'avait pas publié son livre à l'époque. Et donc, moi, je me dis, tiens, c'est intéressant. Est-ce que si j'essayais d'écrire comme ça sur ma vie sexuelle ou tous mes désirs, de façon hyper factuelle, pas un mot d'analyse, pas un mot un mot d'écrivant le sentiment, juste comme ça, fact, fact, fact. Et à côté de ça, c'était une période dans ma vie particulière quand j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit en 95-96, qui est aussi l'époque où j'ai écrit... New York Journal d'un Sikh, c'est la même époque. Et c'est une époque difficile dans mon mariage. Je cherchais à essayer d'avoir un enfant, ça ne marchait pas. Et pour la première fois depuis que je connaissais mon mari, depuis 7 ans, j'ai eu une attirance très forte pour quelqu'un d'autre. Et cette attirance m'a fait terriblement peur, parce que j'ai vu la possibilité à nouveau de cesser d'aimer.
Et j'ai eu très, très peur de ça. Je suis quelqu'un qui est plein de peur. Moi, j'ai peur de faire du mal. J'ai peur de cesser d'aimer. J'ai vraiment une personne très timorée, comme ça. Et donc, cette peur de cesser d'aimer, la peur de la trahison, a été une des origines de jouir d'un livre où je n'ai écrit que des choses très factuelles. Et le résultat de ce livre, quand on le lit, c'est que si on a un homme, on pense en général que c'est un livre tout à fait sexuel et assez excitant. Et si on est une femme, on trouve que c'est un livre où il y a beaucoup d'émotions. C'est assez étonnant. Hein,
oui,
c'est pas la même lecture. Mais en même temps, c'est un livre où je parle pas des grandes relations de ma vie. En fait, je suis dans le ponctuel, tous ces désirs qui m'ont dispersée partout, de l'âge de 6 ans à l'âge de 30 ans, tomber amoureux, le one night stand, la masturbation, les fantasmes. C'est un livre sur ça. Et après, j'ai pensé, mais ce livre, quand même, il dit pas la vérité sur ce qu'est l'amour pour moi, parce qu'il dit tout sauf l'amour. Et je m'en suis pas rendu compte à l'époque. Je pensais que c'était vraiment un livre où j'étais tout entière. Je dis, quand même, il manque quelque chose. Et qu'est-ce qui manque ? Il manque la continuité. C'est un livre de mosaïque, de scènes ponctuelles. Il manque la continuité, il manque le lien. Il manque ce qui a fait mon lien, comme ça, ma continuité d'une relation à l'autre. Et bien, la réponse, c'est une éducation catholique. Parce que dans ce roman-là, on retrouve les personnages qui sont dans Jouir, mais au lieu que ça soit totalement dans la ponctualité, c'est la relation que je décris. Et il y a finalement très peu de personnages dans l'éducation catholique, puisqu'il n'y a que les relations essentielles. Hein, il y a l'ami d'enfance, il y a l'ami d'adolescence, la grande amie pendant 5 ou 6 ans, et puis le premier amour et celui qui devient le mari. Donc c'est très simple, il n'y a que 4 figures. Il y a Dieu d'abord. Et après, il y a ces 4 figures qui prennent la place de Dieu.
Ouais, et du coup, on a comme une hiérarchisation des relations qui n'étaient pas là avant. Mais c'est vrai qu'on reconnaît, moi j'ai vraiment eu l'impression de lire les deux faces d'un même livre, mais à des années d'intervalle. Et effectivement, comme si une éducation catholique répondait à une insatisfaction par rapport au livre précédent.
Oui, et dire l'amour, je ne l'avais jamais fait. Hein. Et c'est pas évident de dire l'amour. C'est pas une chose. En fait, moi, je pensais d'une chose de la maturité. Je pense que quand on écrit, quand on écrit souvent plus jeune, on écrit sur les chagrins d'amour, sur les difficultés, mais pas sur ce que c'est qu'apprendre à aimer quelqu'un. Je pense que pour le coup, c'est un livre, une éducation catholique, c'est un livre que j'ai commencé il y a longtemps. J'ai mis du temps à le finir parce que je n'arrivais pas à voir exactement où il allait. Et quand j'ai compris, j'ai vu que c'était un livre de la maturité. C'est pour ça que je l'ai publié. Bien que je me disais, oh là là, attends, les lecteurs, ils vont se dire que là, il y a un sérieux problème d'imagination, qu'ils ont déjà vu ça quelque part. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? J'y peux rien, j'ai qu'une vie. Hein. Enfin, j'ai qu'un passé et une vie. Donc pour le coup, c'est le même.
Mais il n'y a pas seulement l'amour, il y a aussi des motifs qu'on retrouve parfois chez toi. On a parlé de la culpabilité, on a le sacrifice, la dévotion, l'admiration à l'autre, mais aussi, je pense au personnage de Samuel, sa dévotion et son admiration pour la narratrice. J'ose pas dire pour toi parce que voilà. Mais aussi, on a le rapport à l'argent. On a l'épisode kleptomane de l'enfance, par exemple. Cet épisode qui devient, qui a une toute autre dimension, du coup, qu'on a aussi dans Confession de Radine, cet épisode-là. Un rapport à...
Ah oui, qui est pas du tout traité, pas du tout, du tout de la même manière. C'est un angle... En fait, le matériau est le même, mais la perspective est complètement différente, puisque pour prendre effectivement l'épisode de la kleptomanie, dans Confession d'une radine, c'est toute la question du rapport à l'argent, au bien, à la possession qu'on a gratuitement, à cette espèce de désir d'avoir. Et dans une éducation catholique, c'est la même petite fille qui se retrouve le jour de sa première communion dans l'église, qui doit se confesser et qui sait que si elle ne dit pas qu'elle a volé, elle n'est pas digne de recevoir de l'hostie, de recevoir la communion. Et donc, il y a un gros problème, parce que la culpabilité est immense, et le courage qu'il faut pour pouvoir dire au prêtre « j'ai volé », c'est pour moi, c'est un des souvenirs les plus forts de cette éducation catholique.
Et puis, on retrouve aussi ce passage terrible que de la mort du bébé. et qui était comme un effondrement. Et moi, j'étais très étonnée de voir comment tu le racontes cette fois-ci par rapport à la première fois où je l'ai lu sous ta plume, où d'un coup, c'est comme, c'est comme la preuve que Dieu n'existe pas, ce deuil-là de l'enfant de ta sœur, enfin, la sœur de la narratrice, qui meurt.
Ma sœur, tu peux dire, oui.
Ah ben non, non, non.
Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une narratrice, elle s'appelle Marie, c'est clair que c'est un alter ego, mais c'est pour moi, ça m'est égal. Je peux dire « je » et je peux dire « Marie », ça n'a pas d'importance, parce que c'est un livre, c'est pas une...
Voilà, mais l'enfant, il a changé de nom, par exemple. Et d'âge aussi.
Non, il a son nom. Il a son nom. Et parce que dans Toute innocence, il y a la mort d'un enfant. C'est en toute innocence que tu fais allusion. Ouais. En Toute innocence, c'est un roman. Un roman qui puise dans une matière autobiographique. Mais crois-moi, je n'ai jamais tué personne. Et je n'ai jamais été violée par un kinésithérapeute. Donc, c'est un roman. En toute innocence.
Mais une éducation catholique, c'est un roman autobiographique, mais c'est un roman.
J'appelle roman, mais pour le coup, c'est roman par l'écriture, mais pour le coup, il est totalement dans du vécu et dans le réel. Alors qu'en toute innocence, c'était pas du tout la même démarche. Mais par contre, il y a la mort de l'enfant au cœur du livre, donc c'est évident que l'épisode de la mort de l'enfant est essentiel dans ces deux livres. Et je le savais pas quand j'ai écrit. En toute innocence et même une éducation catholique, à quel point c'était un épisode essentiel. C'est une mort qui, en effet, est vraie. Et je ne sais pas quelle était ta question.
Non, c'était de trouver cet épisode-là comme une preuve de l'inexistence de Dieu, quoi, comme un effondrement de la foi, comme si pour le coup la foi était définitivement discréditée.
Peut-être que je peux lire un petit passage, ouais, mais je ne sais pas où c'est. Si tu veux.
La mort de Thomas. C'est page 92. Je trouve qu'on est pour le coup à mi-chemin entre des romans très factuels, donc autobiographiques assumés, que tu disais tout à l'heure, et puis des romans plus romanesques, comme Le problème avec Jane ou Un brillant avenir. Pour le coup, une éducation catholique, pour moi, fait la synthèse entre les deux. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Au niveau de l'écriture, au niveau j'ai comme la matière est très intime et très personnelle et très mais sur l'écriture j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de comme si tu racontais cette vie dans une perspective, c'est une manière de la relire,
ouais. Parce qu'il y a un travail en fait formel, parce que chaque figure dans le roman est rattachée à l'éducation catholique et à Dieu. En fait, je vais lire un autre passage pour ceux d'entre vous qui n'ont pas lu le livre. Je vais lire un passage sur l'amie adolescente Jimena, qui en fait est vraiment un personnage central du livre. Je pense que c'est elle qui, en termes d'espace dans le livre, doit occuper le plus de place. Et c'est donc la grande amie entre 13 ans et 19 ans, c'est-à-dire entre le moment où Marie cesse de croire en Dieu. Et où Jimena entre dans sa vie, Jimena entre dans ma vie, Dieu en sort, elle dit, et le moment où elle va rencontrer son premier amour. Et c'est une relation, donc, Jimena, c'est une petite fille, une jeune fille, quand même une personnalité très très forte, elle est demi-grecque, demi-chilienne, et elle est totalement insolente en classe, elle se moque totalement des professeurs, et elle a une sorte elle se connaît par cœur tous les auteurs grecs et latins, toute la mythologie des dieux, et elle adore raconter des histoires, et elle, sa parole est pour Marie la vérité même. C'est-à-dire ceux que Jimena juge idiots sont tout de suite immédiatement pour Marie des idiots. Toute son échelle de valeur dépend de Jimena qui devient qui est en quelque sorte le dieu verbe, dont la parole est toute puissante. Jusqu'à un moment où Marie, bien malgré elle, tombe amoureuse, et comme elle est dans un lycée de filles, où il n'y a que des filles, si elle tombe amoureuse, évidemment, c'est d'une femme, de sa prof de français. Et à un moment, par dépit, elle va raconter à Jimena qu'elle a vécu cet amour, enfin qu'elle n'a pas vécu, elle n'a rien vécu du tout, il ne s'est rien passé, mais qu'elle a vécu ces sentiments, cet amour qui l'a complètement
brûlée pendant toute l'année. Alors Ximena fait semblant d'être très amusée, très intéressée, elle lui pose plein de questions. Vous vous êtes vus en dehors des cours ? Non. Ximena mène son enquête, elle veut savoir exactement ce que nous nous sommes dit, quels ont été nos gestes quand nous nous sommes croisés dans les couloirs du lycée. Je n'ai jamais vu manifester un tel intérêt pour mes gestes et mes pensées. Je dis tout dans le moindre détail, même ma jalousie, en apprenant qu'elle avait reçu un baiser de mon idole. Ah oui, je dois expliquer, Ximena a reçu un baiser sur les joues parce qu'elle a eu un prix au concours général de latin, un grand concours en France, et donc le professeur de français, latin, grec, l'a embrassé sur les joues, et c'est là où Marie, qui n'a jamais eu de contact physique avec son professeur, a éprouvé une jalousie brûlante. Elle badine, rit avec moi, puis soudain, elle se tourne vers moi, me fait face et fixe sur moi un regard dur. « Ne fais plus jamais ça. Tu m'entends, Marie ? Plus jamais. » Je frémis. Son regard, empli de colère, semble prêt à me pulvériser. « Ça ? » Je comprends aussitôt ce qu'elle veut dire. « Ça ? » C'est-à-dire tomber amoureuse, en cachette, et me complaire pendant des mois dans des désirs, des sentiments brûlants, une souffrance, une attente, sans que Ximena en sache rien. Vivre une vie séparée d'elle, par derrière, par en dessous, sournoise. Plus jamais ça. Je n'ai plus droit à mes propres désirs. Ne désire plus. Tu m'entends ? C'est Dieu qui l'ordonne. Ximena, autoritaire, inaccessible aux doutes, qui me transperce de son regard et me juge, braquant sur ma vie d'ombre une lumière violente et impitoyable. Le désir est dorénavant interdit. Mais, dans ce moment où Ximena me donne cet ordre d'un ton sans réplique, c'est autre chose que je découvre. Elle n'est pas Dieu. Pas invulnérable. Elle que je croyais toute puissante et inaltérable, j'ai, moi la faible, le pouvoir de la faire souffrir. Elle n'a guère apprécié mon aveu, elle a prétendu rire et plaisanter, mais c'était seulement pour mieux m'extorquer des détails. En vérité, elle ne rit pas. Le mal, ce n'est pas ce moi que je hais, mou, narcissique, en proie à des désirs charnels, ma sournoiserie. C'est mon aveu, la réalité, la cruauté du désir, le pouvoir d'atteindre l'autre quand on le prend pour Dieu. Je ne jouis pas du mal que je lui fais, au contraire, c'est cela qui m'effraie le plus, découvrir qu'il y a de l'incontrôlé, plus fort que le savoir absolu. Ce désir qui échappe à mon contrôle échappe au sien aussi.
Oui. Je voudrais juste lire un tout petit passage très très court sur la fin pour répondre à ce passage-là, qui est la découverte finalement de Hal, celui qui va devenir le mari, et qui pour la première fois peut-être explique par le biais d'une phrase qui est « Tu aurais besoin d'être seul ». J'avais haussé les sourcils en me disant qu'il manquait vraiment d'humour et de courtoisie. Plus tard, dans ma solitude, cette phrase s'inscrirait sur la tablette en cire de mon esprit comme la loi d'une nouvelle religion. Je la comprendrais enfin. Hal m'annonçait par ses mots qu'il refusait de prendre la place de Samuel. Il ne serait pas là pour me servir de croix. Lui qui avait grandi dans un pays communiste et connu l'arrachement, il déclarait que nous étions tous seuls, que c'était notre condition. Il me disait que l'on ne pouvait vivre que lorsqu'on l'avait compris. On ne pouvait vivre et aimer qu'en s'étant débarrassé de la peur d'être seul, la peur de vivre, la peur de faire du mal à l'autre, la culpabilité, cette peur que j'appelle Dieu. Et enfin, moi, j'adore ce passage-là qui me parle beaucoup. Et justement, le fait que la personne qui incarne ça, qui te révèle ça, soit quelqu'un qui vient d'un autre pays, m'intéresse énormément. Et j'aimerais que tu, peut-être, que tu nous parles de justement cette... le fait d'écrire en français et de vivre avec quelqu'un dont ce n'est pas la langue maternelle, le fait d'avoir découvert finalement quelqu'un qui n'est pas Dieu et qu'on peut aimer mais qui vient d'ailleurs. Est-ce que finalement, quel est le rapport entre l'étrangeté de l'autre qu'on aime et l'amour ?
Toute petite question, que je vais, bien sûr, à laquelle vous allez avoir une réponse définitive.
Non, mais c'est quelque chose qui revient dans plusieurs de tes livres, donc ça m'intéresse.
Mais d'une certaine manière, on pourrait dire qu'Une éducation catholique, c'est un livre que j'ai écrit en hommage à mon mari. Il est assez content parce qu'il a la place de Dieu à la fin. Il a beau dire qu'il n'est pas Dieu, il a la place de Dieu. Et comme il n'aime pas tous mes livres, il y en a qu'il n'a pas trop aimé, par exemple « Jouir », il est assez content, voilà. Celui-là, c'est un livre, j'ai payé mon dû. Mais en plus, je plaisante pas seulement parce que C'est vrai que beaucoup de mes livres utilisent donc une matière autobiographique, pas tous, hein, mais c'est pas le cas du problème avec Jeanne, c'est pas le cas d'Amour transversal, d'une partie d'Amour transversal, ni d'Indigo. Bien sûr, il y a toujours des choses de soi, mais par contre, il y a beaucoup de livres et aussi les questions de l'amour et le mari est là et c'est dans À vous, il est là dans À vous, il est là dans Jouir. Alors la blouse roumaine qui va ressortir en folio en juin et à chaque fois, mon pauvre mari.
Mais Jouir, je lui ai dédié hein, quand même.
Comment ?
Tu lui as dédié Jouir quand même.
Je lui ai dédié Jouir. Je crois que je sais pas s'il l'a déjà lu. S'il l'a lu, il l'a fait en cachette. Il me l'a pas dit. Mais donc, c'est quand même très très intime. Il a pas demandé à être comme ça exposé sur la plage, sur la page. Sur la plage, ça va. Il peut être exposé, mais sur la page. Et d'une part, il a pas demandé à être exposé. Donc déjà, lui, il a une notion du privé qui d'ailleurs pose problème beaucoup de niveaux, maintenant pour moi, pour l'écriture. Mais deuxièmement, il m'a aussi dit un jour qu'il trouvait que c'était faux ce que j'écrivais. Et c'est là où je crois que c'est aussi ça qui m'a fait comprendre que j'avais jamais parlé de l'amour. Il m'a dit, mais en fait, je ne parlais que des problèmes, quelque part. Que des problèmes, parce que c'est ça qui vient quand on écrit, évidemment. Je crois qu'on l'a déjà dit, hein, c'est pas le bonheur qui s'écrit et qui se décrit. Je ne me rappelle plus quelle est la citation exacte, mais Claire la connaît sûrement.
Ah pas du tout, non, sur le bonheur, je ne suis pas terrible.
Tolstoï, sinon ça sera Martin, enfin quelqu'un d'entre nous ici la connaîtra bien. Qu'il n'y a qu'une façon d'être heureux, ou c'est quoi, je ne me rappelle plus quelle est la citation. Mais bon. Et donc voilà, donc, y a une j'ai essayé de dire quelque chose qui est difficile à dire, c'est-à-dire finalement rendre justice sans qu'on tombe dans une espèce de béatification, parce que l'écriture n'est pas un processus de béatification. Et finalement, c'est assez proche de peut-être de ce que j'essaie de faire aussi dans ce nouveau projet sur Jérôme, qui est aussi une tentative de rendre justice. Et alors, tu me dis, alors quelle est la difficulté de vivre avec quelqu'un ? Je ne sais pas très bien quelle est ta question.
Est-ce que Dieu est un étranger ?
Est-ce que Dieu est un étranger ? Non, mais c'est ce que je dis. Le message est très clair à la fin du livre. Hein. Le message d'Al, pour parler du personnage, c'est un triple message, je pense. C'est d'un côté, souffrir, ce n'est pas aimer. Donc souffrir ne veut pas dire que tu m'aimes. Ne pas confondre la souffrance et l'amour. Et jusque-là, Marie confondait la souffrance et l'amour. Si elle pleurait, c'est qu'elle aimait. Et cette confusion me semble venir de l'éducation catholique aussi. La souffrance est du côté de la profondeur et de la beauté. La souffrance a une valeur. Le deuxième message, tu l'as lu, c'est tu devrais être seul. Hein, donc c'est apprendre à être seul, ne pas avoir peur de la solitude. Et le troisième message qu'il dit à la fin du livre, c'est je ne suis pas Dieu. Et je ne suis pas Dieu, ça veut dire je suis quelqu'un avec mes faiblesses. Tu ne peux pas attendre de moi d'être toujours là pour toi, quoi. Je ne suis pas Dieu. Et finalement, alors je ne sais pas très bien. Parce que la question que tu me poses, c'est une question plus sur la vie que sur l'écriture, et ce qui impliquerait une sorte de d'état des lieux comme ça, de confession sur ma vie. Mais voilà. Donc.
Bon, tu le feras dans un autre livre. Je ne sais pas si... Bon, on n'a pas beaucoup parlé de tes romans romanesques, mais comme il est assez tard, peut-être qu'on va demander au public si les gens ont des questions.
Alors, je peux vous dire que mon mari aime beaucoup mes romans romanesques. Alors il m'encourage tout de suite. Alors lui, il pense qu'il faut absolument... Voilà, que c'est ça qu'il faut écrire. Quand j'ai écrit Indigo, il était enchanté. Et on pouvait en parler tous les soirs à dîner. C'était confortable. C'était très confortable.
Et toi, est-ce que tu les aimes, tes romans romanesques ?
Alors, ça, c'est une bonne question. Et là, alors, c'est très bizarre. Parce que, par exemple, quand j'écris Indigo, et même quand j'écris Problème avec Jeanne, qui sont finalement les deux romans les plus romanesques, il y avait un côté très ludique. C'était très amusant. Et il y avait des moments où je me disais, ça doit être vraiment ce que j'ai écrit de meilleur. Et c'est vraiment ça qu'il faut écrire et pas autre chose. Et
il y avait, tu sais, c'est comme un puzzle où les choses se mettent en place et s'emboîtent. Enfin, il faut trouver une cohérence tout à fait interne qui est sans rapport avec la vie. Donc quelque part, il y a une plus grande facilité à un certain niveau parce que la cohérence vient de l'écriture et pas du tout de la vie. Donc il y a un détachement qui fait que c'est plus facile. C'est difficile pour moi dans le premier jet parce que j'ai du mal à inventer, j'ai du mal à imaginer. J'ai beaucoup de mal. Je trouve ça épuisant en fait. Donc j'ai souvent du mal avec les premiers jets. Et Indigo, il y a eu des moments vraiment où je me suis dit ah ouais, j'ai vraiment eu l'impression que c'était bon. Et puis après, quand je fais mon petit tour de France, là par exemple comme à l'automne à cause pour une éducation catholique, il y a beaucoup de lecteurs qui viennent vers moi et qui me disent qui regardent les livres comme ça, qui sont souvent dans les salons du livre, ils sont étalés sur... et ils disent ah ça j'ai lu, puis ils disent Indigo ah oui ça j'ai bien aimé, c'est pas mon préféré, tout de suite. J'ai bien aimé, c'est bien, c'est pas mon préféré. Et moi à chaque fois je dis pourquoi ? Enfin, et donc c'est intéressant. Si les gens en ont lu plusieurs, c'est pas le préféré. Voilà, c'est clair. Ben, alors je me dis bon, c'est peut-être pas le roman en soi. C'est peut-être que moi je l'ai un peu raté, mon roman. Je sais pas. Et c'est peut-être aussi peut-être que si je l'ai un peu raté, c'est que moi, ma forme d'écriture, elle est moins bonne dans la forme romanesque. C'est possible aussi. Je veux dire, c'est pas que je pense qu'il faut écrire de l'autofiction et pas du roman. Il y a des romans que j'adore lire. Mais peut-être que je suis meilleure dans une forme d'écriture et pas l'autre.
Il y a des gens qui préfèrent l'époque bleue, la période bleue de Picasso et qui n'aiment pas les...
Martin, il n'arrête pas de me dire, tu lui dis, mais arrête avec tes problèmes. C'est pas des problèmes. Mais alors bon, tu as raison, tes lecteurs ont tous des réactions différentes, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je veux dire, un certain type de lecteur dont la réaction m'intéresse plus que les autres, c'est ceux qui en général qui ont préféré mon roman La haine de la famille, et c'est souvent mes lecteurs préférés, enfin ceux que j'estime le plus intéressant, donc ça me pose problème, parce que donc c'est mes valeurs à moi, tu vois, c'est à ce niveau-là, tu as raison. Aucun, les lecteurs sont jamais d'accord. Il y a ceux qui m'ont préféré. Et ça, je suis donc c'est plutôt, ça se réfère plutôt à ce que ça fait écho à quelque chose en moi. Je me dis non, ce que moi je préfère dans mes livres, c'est plutôt finalement les livres qui ont un projet de vérité, où j'essaye vraiment de rendre justice, de reproduire la vie. Enfin, je sais pas comment dire, de la faire apparaître. L'enjeu est plus fort pour moi. Et par exemple, je lis ce début de texte. Peut-être que je ne sais pas du tout ce que vous avez pensé. Moi, je sais que j'ai eu une vraie émotion en le lisant. Donc l'enjeu est plus fort pour moi. Je vous aurais lu un bout d'Indigo. Je pense que je me serais un petit peu ennuyée à la lecture et que je me serais demandé à chaque page « Oh, j'espère qu'ils sont en train de s'ennuyer !» Donc, et pourtant, il y a des gens qui vont préférer Indigo. Je suis totalement... Je le sais, ça. Et ça pose la question de la distance. Peut-être que j'ai du mal à accepter la distance... Donc je sais pas, mais voilà, on écrit ce qu'on a envie d'écrire aussi.
Pourquoi avoir écrit roman?
Eh bien, Indigo, tout simplement parce que je venais de terminer ce livre, un livre important pour moi, et vraiment un livre avec un enjeu essentiel sur quelqu'un qui était mort, et que je ne pouvais pas le publier, plutôt que c'était une question de choix, c'est-à-dire qu'il n'était pas question... à cause de mon mari, mais il l'a même pas lu d'ailleurs, hein, mais c'était un sujet extrêmement privé et il n'en était pas question, c'est tout. Et donc c'était très difficile à... Mais c'est tout, c'est un choix, à partir de là je peux aussi le quitter. C'est un choix à faire, hein. C'est tout, il n'y a pas rien à dire, je pourrais aller droit dans ma... Voilà, et faire ce que je veux faire. Mais donc je me suis dit, bon, ben, j'avais envie d'écrire et j'avais été invitée en Inde à un festival. Et vraiment, pour le coup, j'écris pas du tout. Enfin, c'est pas du tout la satire, moi, qui m'intéresse. Hein. Mais du coup, le décor. J'étais contente de la coupure parce que l'Inde, tout à coup, dans cette période très difficile, qui avait été une période de deuil, et c'était incroyable ce voyage en Inde, hallucinant. Enfin, vraiment, toute personne qui est allée en Inde, c'est tous les sens, par toutes les couleurs, les sons. Enfin, ça m'a complètement remplie et bouleversée d'une certaine manière. Et en même temps, je me suis dit, tiens, si je situais un roman en Inde. Et je me suis dit, oh tiens, il y aurait un terroriste, je vais faire un petit roman avec un terroriste. Parce que c'était un an après les attentats de Bombay. Donc ça se sentait vraiment partout, il y avait une sorte de tous les gens étaient sur le qui-vive, il y avait vraiment, on le sentait très fort, surveillance, les gens, les militaires dans les aéroports, absolument partout. Et je suis rentrée en me disant, tiens, je vais écrire un roman, et avec des personnages, mais en même temps je les situais vraiment dans l'intérieur du festival où j'avais été, parce que j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose de réel, donc ça reproduit ce festival où je suis allée, mais c'est une invention, tout est inventé. Et voilà, et donc ça a été une façon de, un projet vers lequel je me suis tournée pour me détourner de moi, pour me rendre la vie plus facile. Et le problème avec Jeanne, c'était pour des raisons différentes, c'était après la publication de Jouir, qui a été entièrement ignorée par la critique. À part un article dans le Nouvel Observateur de Jérôme Garcin qui a dit que c'était tout sauf de la littérature. Et en même temps, j'avais un certain... Moi, ça ne m'a pas du tout affectée parce que je trouvais ça, la violence de la réaction, assez amusante. Parce que moi, je n'avais pas trop de doutes sur ce texte. Je sentais comme ça qu'il se tenait. Et il y a eu un succès d'estime de gens qui m'ont écrit à ce moment-là. Mais j'ai commencé à me dire, ça serait bien d'avoir plus que 5000 lecteurs. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir plus que 5000 lecteurs ? Et comme je voyais que j'étais quelqu'un qui n'avait pas de tabou et que dans la société actuelle, j'étais pas non plus dans la provocation du tout. J'étais pas quelqu'un, j'avais aucune vie extraordinaire à raconter. C'était l'humain qui m'intéressait. Je me suis dit, apparemment la société a des tabous, il y a des tabous sexuels, moi j'en ai pas. Peut-être qu'il faut que je modère ce qui est trop personnel chez moi. Et j'ai dit, tiens, si je s'écrivais un roman où j'essaie d'être moi-même, mais dans un roman. Et c'est comme ça que j'ai écrit Le problème avec Jeanne.
Le problème avec Jeanne, est-ce que depuis le début, vous saviez qui était le...
Non.
Non, c'est ça. Comment pas vous du avez tout. Monté le...
C'est, alors, c'est extraordinaire. Absolument pas. Alors là, vraiment... pas du tout. Le problème avec Jeanne, j'ai conçu l'histoire. Voilà, c'est donc l'histoire d'une femme, mais qui ne sera pas moi. C'était ça l'idée de départ. Pas moi, une Américaine. Elle aura eu deux petits amis dans sa vie et elle cherchera Mr. Right. Comme ça, on est safe. Et puis, je l'ai placée dans l'université américaine, à nouveau comme Indigo, dans un lieu que je connaissais. Et ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était les hauts et les bas. C'était un mouvement. Je crois que c'est souvent un mouvement qui m'inspire un livre. Et là, c'était un mouvement des hauts et des bas. Et je trouvais que ça me frappait beaucoup dans l'université américaine, où je voyais, surtout à un endroit comme Yale, où j'étais prof, ces jeunes femmes qui débarquaient, qui avaient le poste dans l'université la plus prestigieuse, enfin, le meilleur département de français des États-Unis, qui avait eu cette gloire au moment du marché du travail, de décrocher le poste que tout le monde enviait, et qui se retrouvaient à New Haven, misérables. J'ai vu passer un nombre de jeunes assistantes professeurs, mais le malheur absolu, perdant leurs années de jeunesse à tenter d'écrire le manuscrit universitaire sans laquelle elle n'aurait pas la titularisation et qui ne serait jamais qui serait peut-être publié, mais qui trouverait 10 lecteurs sur des sujets les plus abscons les uns que les autres, et dans des petites villes où il y avait une sorte de hiérarchie totale entre les professeurs titularisés, les non titularisés, pas de vie sociale, misérable. Et j'ai vu ça de près parce que j'ai vécu là-bas longtemps, et moi j'étais protégée par le fait que j'écrivais des romans parce que j'avais ma vie ailleurs et que j'étais tout le temps à Paris, mais j'ai eu des amis, enfin j'ai vu, et donc c'est ça qui m'a intéressée. Et je me suis dit, je voudrais écrire ce mouvement du grand poste qu'on obtient, du livre qu'on peut pas publier, du malheur, de l'histoire d'amour, du grand amour, mais d'être séparée par le à nouveau cette histoire de titularisation et le travail, et cette espèce de médiocrité de la vie qui casse à chaque fois ce qui pourrait être un élan. Donc vraiment c'était ça le livre, c'était ce mouvement-là. Et puis est arrivé ce personnage qui pour moi était l'opposé de mon personnage, qui était ce Français, inspiré par mon ami Jérôme. Inspiré en partie, il y avait deux personnes qui l'inspiraient, il y avait aussi quelqu'un d'autre que j'avais rencontré qui l'inspirait, qui est toujours vivant aujourd'hui. Et donc ce Français complètement, enfin qui avait une espèce de mépris pour l'université américaine, pour cette petitesse comme ça de cette vie complètement refermée sur elle-même, et il était là en arrière-plan, et donc je sais plus comment l'idée m'est venue, mais à la fin je sais même plus comment, le jour où je me suis dit mais c'est lui l'auteur du livre, c'est lui qui a écrit le livre. Et à partir de là, c'était un peu compliqué parce que il arrivait au début et à la fin, et je me dis, attends, en 350 pages, on l'aura oublié, le début. Et c'est là où je me suis dit, ah là là, il faut que je construise ça comme qu'on la voit lire le manuscrit pour que je rappelle de temps en temps qu'il y a quelqu'un qui a écrit ce livre. Et c'était compliqué parce que ça, je l'ai fait totalement à la dernière minute, quoi.
Donc ouais. Si vous n'avez pas encore lu Le problème avec Jeanne, vous savez comment ça se termine, mais lisez-le quand même.
C'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est un peu leur livre préféré, ce qui est un peu déprimant pour moi, parce que, vous savez, je l'ai écrit il y a longtemps, il y a presque 20 ans.
Il y a autre chose aussi, c'est que vous demander les confessions d'une radine.
Oui.
Est-ce que vous avez pris systématiquement pendant plusieurs mois, plusieurs années les
Depuis que j'ai 4 ans, je prends des notes sur quand même comment je fais mes économies. Ça. Non, en fait, c'est un livre qui est né sans que je sache que je savais pas du tout que ça allait être un livre. C'est quand je suis partie vivre à Prague où a vécu aussi Claire. Je suis partie vivre à Prague parce que mon mari est parti travailler là-bas en 95 et moi j'ai vécu 2 ans et demi à Prague où Martin Winkler avait eu la gentillesse de m'envoyer tous les livres de Camille Laurence. Je ne l'oublierai jamais parce que j'étais très isolée à Prague quand même. Et donc, je me suis aperçue dans ce Prague, quelques années après la fin du communisme, un Prague encore très, très, très pauvre, où vraiment le capitalisme arrivait à ce moment-là, sans doute à grands pas, mais c'était vraiment le tout début. Tout était très, très, très bon marché. On n'avait rien à acheter, rien à dépenser. J'avais des réflexes d'économie. Un taxi coûtait 50 centimes et je ne prenais pas de taxi. Et je me suis dit, c'est intéressant, c'est donc que ce n'est pas un rapport avec la valeur, avec le montant, c'est un rapport avec autre chose. Et j'ai commencé à réfléchir à ce moment-là et à prendre des notes. Et j'ai fait ça pendant 2-3 mois. J'ai pris 2 carnets de notes sur que des choses qui avaient un rapport à l'argent et à la possession. Et j'ai pris des notes comme ça et puis je laissais tomber. Et puis, voilà, parce que c'était quand même franchement minable. Hein. Enfin, que des trucs minables et mesquins. Voilà. J'ai fait mon auto-analyse. Et puis, quelques années après, j'avais redéménagé. Enfin, j'étais à New Haven. C'était drôle, parce que le livre, ouais, je l'ai écrit vers 95, 96, 97. Et puis, des années après, je suis dans mon bureau de Yale et je retrouve ces carnets et je l'ouvre, comme ça, un peu au hasard, et je commence à lire les pages de négociations avec l'éditeur. Et je commence à éclater de rire. Et je me dis, mais c'est extrêmement drôle, ce livre. Enfin, ces pages. Je me dis, mais il y a peut-être un livre, là. Et vous voyez, donc je ne pensais pas du tout qu'il y avait un livre. Je me dis, mais c'est drôle. Et je l'ai tapé. Et je l'ai quand même beaucoup retravaillé parce que c'était que des notes comme ça. Et voilà. Et ça a été le livre apparu en 2003. Donc vous voyez, c'était des années après. Et j'ai hésité. Hein. Je me suis dit, oh là là, je sens que ça va donner une image de moi. Je n'avais pas envie. Après, pendant des années, dès que j'arrivais quelque part, dès qu'on était au restaurant, les gens disaient, ah non, mais attention, comptez pas le vin pour Catherine. C'était horrible. Ou alors, dès que j'arrivais quelque part avec une... Alors, évidemment, si j'achetais une bouteille de champagne, il fallait que ce soit une... Je pouvais plus y aller arriver avec autre chose qu'une veuve Clicquot. Donc, j'arrivais avec ma veuve Clicquot, je disais, oh ben non, la radine qui apporte le meilleur champagne. Non, mais partout. C'était insupportable. Insupportable. Et donc, ça c'était un petit peu énervant, mais le livre était suffisamment drôle pour que voilà, je me suis dit, pas grave, quoi, c'est pas grave.
Et puis, c'est le principe de la confession, c'est qu'après, il faut l'assumer. Hein.
Voilà, mais...
Oui,
mon père.
il est 7h01, donc je pense qu'on va s'arrêter là, malheureusement. En tout cas, merci beaucoup, Catherine. Et je ne sais pas si vous avez d'autres questions à lui poser, vous pouvez essayer en tête à tête.
En tête à tête, non, où vous voulez.
Bonsoir, merci.